Nous allons prendre Ésaïe, chapitre 9. Nous lisons dans Ésaïe 9. Il est écrit ceci au verset 1er. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Donc, je relis le chapitre, le verset premier. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Et nous allons directement au verset 5. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Voilà la bonne nouvelle, c'est que le peuple qui marchait dans les ténèbres, ça veut dire dans l'obscurité, voit une grande lumière. Et cette lumière vient par la personne d'un enfant qu'on va appeler admirable, conseiller, Père éternel. Et nous comprenons par là qu'il s'agit bien de Jésus, le Fils de Dieu, qui est la lumière qui va venir éclairer tout le peuple qui marchait dans les ténèbres. Donc nous lisons après Jean au chapitre 8. Jean au chapitre 8. Il est écrit ceci. Jésus se rendit à la montagne des Oliviers. Mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. Et, la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu ? » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit « Que celui de vous, qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. » Et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jésus leur parla de nouveau et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Amen. Cette femme est surprise en flagrant délit d'adultère. Et on l'amène devant Jésus. On dit à Jésus, on va appliquer les commandements de Moïse. Nous devons lapider cette femme. Et Jésus dit, mais il n'y a pas de problème pour lapider. On va appliquer la loi. C'est comme ça. Mais cependant, qui doit lapider ? C'est celui qui est pur. Que celui qui est sans péché. Ben, commence par lapider. Eh bien, qu'est-ce qu'on nous dit au verset 9 ? Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Bien-aimé, tant que quelqu'un n'a pas rencontré Jésus, il est dans les ténèbres. Tant que quelqu'un n'a pas expérimenté Jésus, il est dans l'obscurité. Même s'il se croit éclairé. Les gens qui amenaient cette femme étaient dans les ténèbres, mais ils ne s'en rendaient pas compte. Je vais vous dire pour une petite raison, pour une simple raison, c'est que comment ils étaient dans les ténèbres, c'est que quand cette femme a commis l'adultère, elle n'était pas seule, elle était avec un homme. Mais pourquoi on n'a pas amené l'homme pour lapider l'homme aussi? Rien que ça, ça prouvait que ces gens-là étaient dans les ténèbres. Mais eux, ils ne savaient pas. Ils venaient avec confiance pour lapider cette femme. Mais Jésus a sorti une phrase qui les a éclairés. Ils ont reçu la lumière. Ils ont subi la lumière du Seigneur. Ils ont réellement vu qu'ils étaient sales eux-mêmes. Mais alors qu'ils ne le pensaient pas. Alors qu'ils pensaient être bons. Mais quand ils ont rencontré Jésus, quand ils ont expérimenté Jésus, ils ont compris qu'ils étaient sales. Tant que quelqu'un n'a pas rencontré Jésus, il ne saura même pas qu'il est dans les ténèbres. C'est Jésus qui est la lumière du monde. C'est lui qui éclaire. Et vous savez, Jésus, ce n'est pas que la personne humaine, Jésus, ou le Fils de Dieu, Jésus. Jésus, c'est sa parole aussi. Puisqu'il dit dans Jean 1, au commencement était la parole était Dieu. Et elle était avec Dieu. La parole de Dieu est venue en chair, c'est écrit dans Jean 1, 14. En la personne du Fils de Dieu. Et la Bible, c'est aussi la parole de Dieu. Et cette parole de Dieu, c'est Jésus lui-même. Jésus, ce n'est pas seulement aussi la parole de Dieu. Jésus, quand il est monté au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit entre dans les chrétiens. Entre dans ceux qui croiront en lui. Donc Jésus continue à agir au travers de ceux qui ont cru en lui. Ce qui fait que les chrétiens aussi peuvent manifester Jésus et éclairer. C'est ainsi que dans Matthieu 5, il dit aux chrétiens, « Vous êtes la lumière du monde. » Puisque maintenant, il est dans les chrétiens, il continue à éclairer le monde à travers les chrétiens. Et vous savez, quand on est éclairé, c'est là qu'on se rend compte des tâches qu'on peut cacher dans nos vêtements, dans nos chaussures. La lumière montre la réalité. Et tant que quelqu'un n'a pas rencontré la vraie lumière de Jésus, il va se croire quelqu'un. Il va se croire dans la clarté. En réalité, il est dans les ténèbres. Ces gens-là, parmi eux, il y avait des religieux, il y avait des sacrificateurs, il y avait des gens qui étaient estimés par la population. Mais quand ils ont fait face à Jésus, ils ont compris qu'ils étaient pécheurs. Et notre sous-prédication, parce que notre prédication, on va apprécier ça en deux fois, puisque c'est long, c'est Jésus la lumière du monde. Mais aujourd'hui, nous allons donner un conseil gratuit. Ne fuis pas la lumière de Dieu. Ne fuis pas la lumière. Parce que vous avez constaté avec moi que la conséquence de ce que ces gens-là ont été éclairés par Jésus, la conséquence est qu'ils ont, ils ont fui. Mais la femme pécheresse, elle n'a pas fui. Elle est restée sous la lumière. Elle était aussi gênée comme ces gens-là. Parce que pourquoi ces gens-là ont fui? Parce qu'ils ont été gênés de se voir mauvais pécheurs. Alors ils ont préféré fuir la lumière qui montrait cela. Mais cette femme qui est encore plus gênée que eux, puisque tout le monde l'accusait, cette femme a préféré rester sous la lumière. Pourquoi? Parce qu'il n'y a de solution que sous la lumière. Sans la lumière, il n'y a pas de solution pour la vie. l'obscurité, c'est le monde de la jungle, c'est le monde de chacun pour soi, le monde de la guerre égoïste sans pitié. Dans l'obscurité, tous les coups sont permis. Bien aimé, imaginez que un match de football se passe dans l'obscurité. Mais il y a des gens qui vont prendre le ballon à la main, il va courir, il va mettre le but. Il prend carrément la main. Il y en a quelqu'un qui peut mettre même dans son vêtement. On cherche, on ne voit pas, il arrive jusqu'au poteau, jusqu'au but adverse, il enfonce. Donc dans l'obscurité, tous les coups sont permis. On dit même que tous les chats sont gris, hein, dans l'obscurité. Tous les coups sont permis. Donc cette femme-là était consciente que je suis sale. Et là, il y a encore quelqu'un qui est saint, qui est pur, qui a fait fuir même les gens qui se pensaient purs. Mais ce quelqu'un-là n'est pas seulement pur, c'est la lumière du monde. Il n'y a de solution que dans la lumière. Il n'y a pas de solution dans l'obscurité, où tous les coups sont permis. Où tous les coups sont permis. Nous lisons Actes des Apôtres, chapitre 9. Il est écrit ceci. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se rendit chez le souverain sacrificateur et lui demanda des lettres pour les synagogues de Damas, afin que s'il trouvait des partisans de la nouvelle doctrine, hommes ou femmes, il les amène liés à Jérusalem. Comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Il répondit « Qui es-tu, Seigneur ?» Et le Seigneur dit « Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait dur de regimber contre les aiguillons. » Tremblant et saisi d'effroi, il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » Voilà comment s'est passée la conversion de celui qu'on a appelé plus tard Paul. En ce moment, il s'appelait Saul. Et Saul, c'était un juif religieux ardu, solide. Il défendait la religion juive. Et quand donc au milieu des juifs a commencé la doctrine des chrétiens, comme quoi Jésus-Christ est venu pour être sacrifié à cause du péché de l'humanité, et il est ressuscité le troisième jour, prouvant qu'il a accompli son sacrifice et donnant une nouvelle vie aux humains qui croiraient en lui, Paul s'est senti chargé d'une mission, celle de combattre les chrétiens, parce que c'était des juifs qui étaient dans l'erreur. Il s'est senti avoir cette mission-là. Vous savez, comme on va le voir dans la suite de la prédication, souvent, pour combattre la lumière, les gens vont utiliser des inspirations personnelles. Ils ne vont jamais utiliser la parole. Parce que quand vous prenez la parole de Dieu, vous ne verrez nulle part. Quand je dis la parole de Dieu, à l'époque de Paul, c'était les écrits de Moïse et le reste. Vous ne verrez nulle part que l'on puisse tuer, emprisonner les gens qui avaient du mal à croire ou qui croyaient autre chose. Vous savez, au milieu des Juifs, il y avait déjà beaucoup de sectes à l'époque de Paul. Quand vous lisez, vous vous rendez compte qu'il y avait des pharisiens, il y avait des sadducéens, il y avait des hérodiens. Est-ce que vous avez entendu dire que les sadducéens avaient été tués? Est-ce que vous avez entendu dire que les hérodiens étaient emprisonnés? Est-ce que vous avez entendu que les esséniens étaient emprisonnés? Non. Donc, en quelque sorte, ce que Paul voulait faire aux chrétiens, Saul voulait faire aux chrétiens, c'était son inspiration et l'inspiration de certains sacrificateurs qui étaient jaloux. C'est pour nous dire que la lumière ne peut pas combattre la lumière. Quand on combat la lumière, c'est souvent selon des inspirations personnelles. Et Paul s'est cru être revêtu d'une mission divine consistant à éliminer les chrétiens de la surface de la terre. Donc il a pris même des permissions pour aller les chercher à Damas, une ville étrangère. C'est sur ce chemin-là, comme je l'ai dit précédemment, tant que quelqu'un n'a pas rencontré Jésus, il restera dans les ténèbres. Paul, Saul à l'époque, se rendant pour récupérer les chrétiens et les amener en prison, rencontre Jésus, la lumière de Dieu, la lumière du monde. Et quand Paul est face à cette lumière, Paul tombe de son cheval. Et il se dit, mais qui est-il ce Seigneur qui apparaît dans une lumière pareille? Il dit, mais qui es-tu, Seigneur? Il appelle Seigneur, donc il le traite comme Dieu. Et le Seigneur de la lumière lui dit, je suis Jésus que tu es en train de persécuter. Ah bon? Donc c'est toi le maître des chrétiens? Je crois que normalement, Paul aurait dû prendre ses jambes à son cou et détaler parce qu'il a passé son temps à persécuter les chrétiens. Maintenant, tu te rends compte que les chrétiens que tu persécutais, mais leur Seigneur, c'est le Dieu Tout-Puissant. Et c'est le Dieu même que toi, tu pensais servir. Paul aurait dû dire, mais quelle bêtise j'ai commise. Quelle erreur j'ai faite. Il faut fuir parce qu'il va me massacrer. Mais, comme nous l'avions dit précédemment, Paul savait que la solution se trouvait où? Dans la lumière. Il n'y a pas de solution dans la fuite. La solution se trouve en Dieu. Beaucoup de gens fuient la lumière. Ils se sentent torchés par la lumière. Vous savez, il faut, bon, je ne sais pas comment on peut faire cet essai-là, mais imaginez quelqu'un qui est en train de cambrioler dans le noir. Dès que la lumière est allumée, qu'est-ce qui se passe? Il fuit. Il ne sait même pas à qui il a affaire. Du moment que la lumière vient à jour, il fuit. Pourquoi il fuit? Parce qu'il se sent dévoilé. Rien que le fait d'être dévoilé dans son péché, il fuit. Et ça, c'est la réaction de tout humain. Face à la lumière de Dieu, l'homme a tendance à vouloir fuir. Et je vais rappeler, j'ai bien expliqué que cette lumière se manifestait par Jésus, par sa personne elle-même, par ce qu'il est. Mais cette lumière se manifeste aussi par la parole de Dieu, parce que Jésus, c'est sa parole. Cette lumière se manifeste aussi par les chrétiens qui sont en 100% avec Jésus. Et cette lumière peut se manifester aussi à travers certaines circonstances. Dieu t'éclaire brutalement. Et là, Paul, Saul, se dit, non, si c'est donc lui le Seigneur, la solution se trouve en lui. Pourquoi fuirais-je? Il a posé la question suivante. Seigneur, dans ce cas, comme je me trompais en persécutant les chrétiens, que veux-tu que je fasse? Que veux-tu que je fasse? Puisque si c'est toi le Seigneur, donc la solution pour ma vie se trouve en toi. Paul n'a pas fui. Et à partir de ce moment-là, Dieu a transformé Saul. Il est devenu Paul et celui qui a écrit une grande partie de ce que nous appelons le Nouveau Testament. Paul a été utilisé puissamment en Europe et en Asie pour apporter le salut du Seigneur. À l'époque, il n'y avait même pas de train, il n'y avait même pas de voiture, mais rien qu'à pied, à cheval, avec les bateaux, Paul a pu toucher presque deux continents avec ses compagnons parce que il n'a pas fui la lumière. Il a dit, c'est vrai, la lumière vient de me dévoiler. Je suis un homme mauvais. Mais la solution se trouve dans la lumière. Comme c'est écrit dans Psaume 36, par ta lumière, nous voyons la lumière. Lorsqu'on est dans la lumière de Dieu, c'est là que nous-mêmes, nous pouvons venir à la lumière. Et c'est ainsi que Paul a reçu la lumière. Vous savez, beaucoup de gens fuient la lumière. Qu'est-ce qui est écrit dans 2 Timothée 4? 2 Timothée 4. À partir du verset 1er. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non. Reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Ce texte nous dit que les humains ne vont pas supporter la lumière. Et face à la lumière, ils vont se construire des carapaces pour se cacher, pour ne pas que la lumière les atteigne. Et c'est ça la réaction de l'homme. Dès que la lumière est sur lui, il veut se cacher. Mais là, on nous dit comment il peut se cacher. Il va chercher des doctrines qui vont empêcher la vraie lumière de l'atteindre. Donc les gens vont se cacher derrière la religion, adorer les statues, faire telle chose avec les ancêtres. Donc tout ça, parce qu'ils sont en train de fuir la vraie lumière qui peut les éclairer. Ils vont se cacher derrière la philosophie. Commencer à mettre en doute l'existence de Dieu parce qu'ils sont gênés par la lumière de Dieu, parce que l'existence de Dieu est évidente. Vous savez, bien aimé, chercher dans tous les peuples, allez nous chercher une cérémonie qui a commencé depuis 2500 ans et qui continue jusqu'à aujourd'hui. J'ai dit bien 2500 ans. Allez chercher ça. Vous allez trouver aucun peuple. Tous les peuples ont des choses nouvelles aujourd'hui qui n'ont pas connu il y a 1000 ans même pas il y a 700 ans. Allez en Grèce voir s'ils continuent à faire des choses qu'ils faisaient autrefois. Pas du tout. Hein. Pourtant, l'histoire des deux peuples les plus connus, c'est la Grèce et, à part Israël, c'est la Grèce et l'Italie et Rome. Mais allez dans ces deux pays-là et prenez les livres d'histoire. Comparez les livres d'histoire et ce que vous allez voir dans ces pays-là pour voir si ce que vous lisez dans les livres d'histoire sont en train de se faire encore. Vous allez voir aucune chose. Mais allez en Israël, prenez la Bible, vous allez voir, tiens, ils ont fêté la Pâque tel jour. Vous voyez, aujourd'hui encore, ils le font. Il y a depuis plus de 2500 ans. Vous allez voir, tiens, ils faisaient le sabbat le sixième jour, ils étaient au repos. Jusqu'aujourd'hui, bien-aimés, quelle évidence vous voulez encore pour croire que Dieu existe? Ce peuple-là est la preuve de l'existence de Dieu. Cherchez n'importe quel peuple, vous n'allez jamais trouver des traditions plus vieilles de 500 ans même. Ça n'existe plus, tout a disparu. Mais vous allez lire dans la Bible, la Pâque, tel jour, et aujourd'hui encore, c'est fêté le même jour, au même endroit. Vous allez lire le Shabbat. C'est fait depuis 2500 ans. Mais ça, ce sont des prophéties de la Bible. Dieu a juré qu'Israël sera permanent. Personne n'effacera Israël. Et aujourd'hui, nous en avons encore la démonstration. Permanence. Cette coutume-là est encore là. Que tu le veuilles ou pas. Les fêtes que vous allez lire dans la Bible, les fêtes de l'Éternel, vous allez les voir, ils sont en train de les fêter jusqu'à aujourd'hui. Donc, il n'y a jamais eu interruption. Jusqu'à aujourd'hui. Alors les gens, devant cette réalité-là de l'existence de Dieu, ils se sentent visés. Ils sentent qu'ils ont les péchés. Alors ils cherchent par des philosophies comment contredire la Bible. Parce que la Bible est en train de les torcher, est en train de leur de mettre un faisceau lumineux sur leur péché. Ils cherchent comment contredire tout ça. En changeant d'église. En réalité, ils pensent fuir Dieu, mais ils ne peuvent pas fuir Dieu. Jésus est la lumière du monde. Partout où tu iras, la lumière que tu as entendue un jour qui t'a gêné va te suivre. Il est écrit dans Ésaïe 55, « La parole de Dieu ne sort point, ne revient point à lui sans accomplir ses objectifs. » Même si tu changes d'église parce que tu es gêné par la lumière, celle que tu avais déjà reçue là va te suivre partout. Dans ta tête, tu te souviendras que Jésus est la vérité. Tu te souviendras toujours de la parole. Même si tu changes de lieu, elle te suivra toujours. Et on crée beaucoup de fausses doctrines, beaucoup de religions. Vous savez, Jésus, dans Jean 4, il rencontre une femme. Et cette femme-là, sent que il y a la lumière devant elle. Et elle commence à chercher des excuses. « Oh, ben tu sais, hein, nous on adore, hein, dans les montagnes, vous vous adorez dans un temple. » Jésus dit « Non, madame, ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est en esprit, en vérité. Le véritable adorateur que Dieu cherche, ce n'est pas une histoire d'endroit, ce n'est pas une histoire de bâtiment, c'est une histoire de cœur. Est-ce que ton cœur est dans l'esprit et dans la vérité ?» D'ailleurs, au moment où tu parles même là, tu as eu plusieurs maris et tu en es à ton septième. Donc cette femme s'est sentie dévoilée par la lumière. Mais est-ce qu'elle a fui la lumière? Elle a dit non, la solution se trouve dans la lumière. Quand Jésus l'a dévoilée, elle est partie prendre d'autres personnes. La lumière a tendance à nous faire fuir. Mais ne fuyons pas. Même si elle nous montre nos péchés, elle nous montre nos fautes, la solution se trouve toujours en elle. La solution se trouve dans la lumière de Dieu. Tant que, je le dis bien, tant que quelqu'un n'a pas rencontré véritablement Jésus, il peut se croire éclairé, mais en réalité, il est toujours dans les ténèbres. Tant que quelqu'un néglige la Bible, il peut se croire éclairé, mais il est toujours dans les ténèbres. C'est une réalité, bien-aimé. Jésus est la lumière du monde. Lui seul peut montrer le problème qui est en toi, dans ton cœur. Lisons Luc au chapitre 10. À partir du verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, pour lui tendre un piège, pour l'éprouver dans notre version. Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui l'eût-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Eh bien, tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Voilà. Si on s'arrête là, on se dit, ben, cet homme, il est dans les normes, il est en accord, c'est un bon type. C'est quelqu'un de bien. Mais la Bible ne s'arrête pas là. Il est écrit, mais cet homme, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Mais pourquoi il voulait se justifier? Puisqu'il faisait ce que Jésus a dit. Qu'est-ce qui est écrit? Ben, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton âme, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Jésus a dit, mais d'accord, tu connais toi-même la réponse à ta question. Vas-y, accomplis ça. Mais bien-aimé, il y a prédication et prédication. Il y a parole et parole. Cet homme-là lisait autrefois tout seul cette parole-là avec son interprétation en lui. Ce jour-là, Jésus ne lui a même pas donné d'interprétation. Jésus l'a seulement dit, mais applique ça. Mais comme c'est Jésus qui parle, l'Esprit Saint vient t'expliquer dans ton cœur ce qu'il veut dire. C'est ça la puissance de la vraie parole. Et cet homme a reçu la vraie explication dans son cœur, sans que Jésus cite ça. Alors il a voulu se justifier. Pourquoi il a voulu se justifier? Parce que dans son esprit, le prochain, ce n'était pas comme dans l'esprit de Jésus-Christ. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il s'est écrit, il a voulu se justifier en disant, mais qui est mon prochain dans ce cas-là? Parce qu'il sentait bien. Que voulait dire Jésus? Le prochain, c'était tout le monde. Mais lui, il n'était pas d'accord. Je me souviens d'un bien-aimé qui évangélisait dans la région parisienne. Et un bien-aimé juif. Et c'est les gens des juifs pour Jésus. Donc, ils cherchent les juifs pour leur parler de Jésus. Et on a voulu le taper par un juif religieux. Mais il dit aux juifs religieux, mais c'est écrit dans la parole qu'il faut aimer son prochain comme soi-même. Et le juif religieux lui a dit, mais mon prochain, c'est le juif. Ah. Donc, nous sommes dans le même cadre qu'ici, là. Jésus lui dit, mais tu vas, pratique. Aime ton prochain comme toi-même. Donc cet homme se croyait dans la vérité. Il se croyait dans la lumière alors qu'il était dans les ténèbres. Mais il a appris, quand est-ce qu'il a appris qu'il était dans les ténèbres? Le jour où il a rencontré Jésus. C'est là qu'il a appris qu'il était dans les ténèbres. Tant que ce n'était pas face à Jésus, face à la vraie parole, il pensait être dans la lumière. Mais le jour où il rencontre la vraie parole de Dieu, il se rend compte qu'il était dans les ténèbres. Mais il veut quand même se justifier. Il veut donc fuir la lumière. Il veut mettre un barrage à la lumière. C'est ça les justifications. On veut mettre un barrage et justifier. Mais la parole est devant toi. Jésus dit, attends, je vais t'expliquer les choses. Verset 30, Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui fortuitement descendait par le même chemin, ayant vu cet homme-là, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait. Les samaritains n'étaient pas en accord avec les juifs, c'était presque des ennemis. Étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies, en y versant de l'huile et du vin. Puis il le mit sur sa propre monture, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'hôte et dit, « Aie soin de lui, et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ?» Verset 37, « Ben, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. » Répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, « Va et toi, fais la même chose. » Ce jour-là, cet homme est arrivé, il a vu la lumière. Il croyait être un bon religieux. Il croyait être un homme proche de Dieu. Mais ce jour-là, il s'est rendu compte qu'il n'avait jamais appliqué la parole la plus importante que Dieu ait donnée aux Juifs. « Tu aimeras Dieu de tout ton cœur. » Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il pensait que son prochain, c'était un juif, mais son prochain, c'était tout homme que Dieu avait créé sur la terre. Et ce jour-là, il a compris. Il est passé des ténèbres à la lumière. Est-ce qu'il a fui après cette explication? On ne sait pas. Mais toujours est-il qu'en ce moment-là, il est passé de là, des ténèbres à la lumière. Aujourd'hui, bien-aimé, fais face à la lumière et ne fuis pas. La solution se trouve dans la lumière. Vous savez, par expérience, on a vu beaucoup de choses dans nos églises. Vous savez que dès que quelqu'un commence à vous créer des problèmes, en général, le frère se prépare à tomber ou la sœur se prépare à tomber. Alors, il commence à créer des problèmes aux autres chrétiens. pour bien s'éloigner et faire la chose dans les ténèbres. On voit ça. Les conflits inutiles, oh mais pourquoi? En réalité, la personne veut faire quelque chose de mal et prépare son coup par des conflits, prépare son coup par un éloignement, parce que la lumière gêne. Quand on veut faire le mal, la lumière gêne. On veut faire une magouille. On sait que les chrétiens, quand ils apprendront, ils diront, mais non, mais ce n'est pas biblique. Ah, on prépare la chose en accusant les chrétiens d'extrémistes, en accusant les chrétiens de manquer d'amour. Il y en a qui disent, il n'y a pas l'amour. En réalité, la lumière dérange. La solution ne se trouve pas dans la fuite. La solution se trouve dans la lumière. Il y a des gens qui disent, mais moi je suis jeune. Mais jeune, ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que Dieu ne peut pas agir dans un jeune. Non, il peut agir dans tout le monde. Et on va voir des médecins qui vont vous dire aussi, mais oui, tu es encore jeune. Donc il te faut te libérer par telle pratique sexuelle. C'est faux tout ça. Ça, c'est des échappatoires pour fuir la lumière. On va créer la théorie de l'évolution. C'est pour fuir la lumière. On ne veut pas accepter la réalité de Dieu. Les religions, c'est pour fuir la lumière. La vérité, c'est Jésus. C'est lui la lumière. Il faut faire face à cette lumière pour qu'elle te sauve pleinement. Il ne faut pas fuir. Et souvent, vous savez comment on fuit la lumière? En se comparant aux autres. On se compare à d'autres chrétiens qui font des erreurs. On se compare à des pasteurs qui font des erreurs. Mais bien aimé, ce n'est pas eux qui sont l'unité de mesure. L'unité de mesure, c'est Jésus lui-même. Si tu veux te comparer à quelqu'un, compare-toi à Jésus. Et là, c'est là que tu vas te rendre compte que tu es dans le péché, que tu es dans les ténèbres. Maintenant, il ne faut pas fuir la lumière. La solution se trouve dans la lumière toujours. Compare-toi à la vraie lumière qui est Jésus lui-même. Et nous lisons encore dans Luc 18 le cas d'un homme qui pensait encore être dans la lumière, mais il était dans les ténèbres. Luc 18, 18. Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit, « Qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » C'est ça la réalité, bien-aimé. Cet homme croyait faire bien, croyait être dans la lumière jusqu'au jour où il a rencontré la vraie lumière, la vraie parole qui est Jésus lui-même. Alors, il s'approche de Jésus pour dire, mais Jésus, tu es le bon maître. Jésus dit, si tu m'appelles bon, donc tu me qualifies de Dieu parce que Dieu seul est bon. Donc si je suis Dieu, tu devras bien m'écouter alors dans ce cas-là. Et il dit, mais que dois-je faire pour aller au ciel? Jésus dit, mais applique la loi. Jésus lui cite un certain nombre de commandements. Honore ton père et ta mère. Fais pas de faux témoignages. Pas d'adultère, pas de meurtre. Et cet homme dit avec joie, oh, mais tout ça, moi j'applique ça depuis ma jeunesse. Maintenant, quand Jésus lui dit, il te reste une chose. Est-ce que Jésus rajoute une nouvelle loi? Non. n'est pas une nouvelle doctrine. On a lu ça dans Luc 10, non? Qui avait répondu quand Jésus a dit « Qu'est-ce que Dieu a demandé de faire ?» Ce n'est pas Jésus qui a répondu. C'est un homme de loi, un docteur de la loi. Donc, c'était écrit dans leurs écrits, dans leurs écritures, c'était écrit que tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Non, maintenant Jésus cite, « Honore ton père et ta mère, ne vole pas, ne fais pas ceci. » L'homme dit avec joie, « Moi, la loi, je l'applique depuis ma jeunesse. » Jésus dit, « Mais il manque un élément de la loi que tu dois appliquer. » C'était quel élément? Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme. Alors, si tu veux appliquer ça, puisque tu m'as appelé bon, je suis comme ton Dieu, ben, tu dois tout faire pour moi. Vends tous tes biens et suis-moi. Comme ça, tu appliqueras ce commandement-là qui dit, tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Il est écrit, cet homme s'en est allé tout triste. Il a fui la lumière. Pourquoi il a fui la lumière? Parce qu'il était très riche. Il a vu en image toute sa richesse s'en aller. Il n'a pas pu supporter cela. Il y a des gens bien-aimés, dès qu'ils se rendent bien compte que dans le catholicisme, ils étaient dans l'erreur. Vous leur lisez les passages. Ils voient clairement que c'est une erreur, c'est une aberration. Il y a le film de l'héritage qui s'en va. Il s'est dit, aïe, si je change, si je quitte le catholicisme, les parents vont me déshériter. Donc, il voit déjà comment les frères vont se distribuer la maison. Il voit déjà comment il va louper beaucoup de choses de la part de ses parents. Il voit déjà les combats qu'il va connaître. Il préfère fuir la lumière. Oh, on en parlera plus tard. Ou bien, ah, vous êtes extrémiste. Ah, vous êtes dangereux. Vous êtes fou. C'est la lumière qui fait fuir. Parce que les gens voient le film de ce que Dieu leur demande. Dès qu'on leur présente la vraie parole, ils voient le prix à payer. Au lieu de dire, Seigneur, je ne pourrai pas sans toi, aide-moi, ils préfèrent fuir. Mais Dieu qui est en train de torcher, vous savez l'exemple qu'on a pris sur le voleur qui voit tout d'un coup la salle dans l'obscurité où il volait s'éclairer, cet homme va dire, c'est la police, et fuir. Mais Dieu, quand il éclaire comme ça, c'est pour que tu vois ton erreur et que tu cherches la solution auprès de lui-même, Dieu. Ce n'est pas pour que tu fuis. Et beaucoup fuient en disant, ils exagèrent. Mais non, mais ce que nous disons est écrit, ce n'est pas nous, c'est Dieu qui a mis ça. Et beaucoup se calculent déjà, aïe, mes parents ne vont plus me laisser ma part de l'héritage. Aïe! Parce que vous savez, quand vous voyez la vérité, vous ne pouvez plus aller dans un lieu où il y a des statues, où on adore ces statues. Donc vous vous imaginez la réaction des gens quand ils vont vous inviter dans des mariages et que vous restez dehors. Alors beaucoup, quand ils calculent tout ça, se disent, ah, c'est exagéré. Je préfère être fréquence modérée, donc FM. Je préfère être au milieu. Non, tu fuis la lumière. Vous savez, bien aimé, moi je suis parti au mariage de ma sœur à 7000 km avec les turbulences dans l'avion. Et arrivé là-bas, ça devait se célébrer dans un bâtiment catholique. J'ai dit aux gens, à ma propre sœur et au reste, moi je ne pourrai pas entrer, je vous attendrai dehors. Parce qu'il y a des statues et autres, c'est un culte à des faux dieux. Ce n'est pas un vrai culte au véritable Dieu. Parce que ces choses qui sont faites là-bas sont interdites par la parole de Dieu. On m'a traité d'extrémiste. Et il y en a qui ont dit, mais quelqu'un qui m'a dit, mais c'est quand même ta sœur, tu t'es déplacé de loin. Moi, j'ai dit, mais je lui prouve mon vrai amour en acceptant ce sacrifice-là. Moi, je l'aime vraiment, c'est pourquoi je n'entre pas. Je ne veux pas qu'elle pense que ce qu'elle fait est bien. Aujourd'hui, bien-aimé, j'ai la joie de vous dire que cette sœur-là est celle qui est le plus proche de moi dans la parole. Quoi. C'est elle qui a compris les choses de la parole comme moi. Quoi. Et aujourd'hui, c'est elle-même qui sort de la bouche. Il dit, il n'y a que l'extrémisme qu'il faut. Tout le reste, c'est nul. C'est l'extrémisme qui est la vraie parole. Et comme je suis dans la joie, bien-aimé, d'avoir résisté ce jour-là. La solution se trouve où? Dans la lumière. Il ne faut pas croire qu'en faisant la complaisance, que les gens viendront à la lumière. Ils vont se dire, mais on est pareil. Quand on fait le compromis, ils se disent, mais pourquoi alors quitter les ténèbres? Puisque lui, il a fait avec nous. Donc on est pareil. Bien-aimé. Il y a des gens qui ont écouté nos CD. Il y en a qui ont dit, bon, en tout cas, tout ce qui est dit est très bon, mais il y a un CD où il parle de faux dieux. Là, on préfère pas ça. Mais non, c'est la même source. Tu veux tout le reste, mais tu ne veux pas toute la vérité. On veut fuir la lumière. Il faut faire face à la lumière et demander l'aide à la lumière de Dieu. Jésus, le Dieu vivant, lui, il éclaire. Vous savez, quand quelqu'un a besoin un peu de s'amuser, de danser comme dans le monde, on voit que, ah, dans cette église, vous êtes trop sérieux. Moi, le vrai problème, c'est la danse. Le vrai problème, c'est son succès. Donc, il est torché. Voilà. Comme quelqu'un qui m'avait dit, mais je vais venir vous visiter, mais un pasteur, vous allez me mettre quand même à la première place, aux premières places. Donc, son problème, c'est quoi? C'est que là-bas, on risque de me mettre à n'importe quelle place. Or, moi, je suis quand même un grand homme de Dieu. Il faut que je sois devant. La lumière gêne la personne. Avec beaucoup de gens, je vous demande de vérifier. Vérifiez la plupart des conflits que vous allez vous avoir, c'est lié à la fuite de la lumière. Les gens fuient la lumière. Mais même dans nos maisons, la personne qui est très attachée à la parole va commencer à déranger les autres. Quand on arrive au moment où cette personne doit prendre la parole, les autres commencent à bouder déjà à l'avance. On voit ça avec nos enfants. Va avoir un enfant qui ramène tout toujours à la Bible. Et dès qu'il veut parler, ah, les autres parlent déjà avant lui. Parce que la lumière, ça gêne. Ça gêne. On doit voir des gens en colère. Tu te dis, mais est-ce qu'il me connaît? Non, il ne te connaît pas. Il a appris que tu étais chrétien. Donc il se met déjà en colère parce qu'au moment où tu parles, déjà son visage te fasse peur, tu ne parles pas. Voilà. Et il se prépare déjà à fermer le front à la lumière. Il ne faut pas fuir la lumière. Il faut faire face à la lumière. Parce que la solution se trouve dans la lumière. Bien-aimés, il y a beaucoup de textes que nous pouvons lire où nous allons voir toujours la même chose. Les gens se croyaient dans la lumière. Vous savez, Ésaïe était un prophète très respecté. Un grand prophète. Mais dans Ésaïe 6, c'est écrit que quand il a vu la lumière de Dieu, il a dit, je suis un homme pécheur. Et Dieu a eu pitié de lui, il l'a purifié avec un morceau de braise. Devant Dieu, tout le monde va se voir comme pécheur. Mais on a l'instinct de vouloir fuir. Il ne faut pas obéir à cet instinct-là. Il faut rester dans la lumière, dire, lumière, sauve-moi. Dieu, sauve-moi. Bien-aimé, tant que quelqu'un n'a pas rencontré le vrai Jésus, il va rester dans les ténèbres. Aujourd'hui, je nous interpelle aussi à être ferme avec la Bible. Rester sur la Bible, la vraie lumière. Rester sur la nature de Jésus, 100% pour Jésus. C'est comme ça que les gens verront la lumière du Seigneur en vous. Et beaucoup seront sauvés parce que la solution se trouve dans la lumière. La lumière montre les erreurs, montre les fautes, montre les tâches, mais c'est elle aussi qui sauve. Nous clôturons avec ce témoignage. Un homme, un jeune homme, a été élevé par les Hezbollah, un musulman, de famille musulmane. Il a fait des formations militaires, parce qu'il fallait être des conquérants, les djihads. Et on lui a enseigné le djihad culturel. C'est-à-dire aller dans les pays chrétiens pour essayer culturellement de les transformer en musulmans. Il avait la haine contre les chrétiens, la haine contre les juifs. Et lui, sa mission, c'était aux États-Unis. Et il arrive là-bas, il commence à recruter des jeunes arabes pour en faire des éléments de lutte contre le christianisme, le djihad culturel. Un jour, il fait un accident. Il se retrouve presque beaucoup de parties du corps cassées. Et la personne qui est en train de le récupérer pour le mettre dans l'ambulance l'appelle mon fils. Il lui dit, mon fils, on va s'occuper de toi. Il arrive à l'hôpital. Le médecin qui s'occupe de lui l'appelle encore, mon fils, ne t'en fais pas. On va travailler et tu vas te rétablir. Il est soigné comme il faut. Et comme il avait des problèmes d'argent et des problèmes de famille, il était seul. Le médecin le recueille après chez lui. Vous savez, aux États-Unis, on ne traîne pas à l'hôpital comme chez nous. Ici, les femmes traînent 7 jours maternité. Là-bas, ça coûte cher. 2 jours, go, la femme est déjà à la maison. Parce que ça coûte cher. Alors, le monsieur devait rentrer chez lui. Mais chez lui, il n'y a pas de famille. Le médecin le recueille chez lui. S'occupe de lui. Jusqu'à son rétablissement. Mais le médecin, c'était un chrétien. Il priait parfois avec d'autres chrétiens. Le médecin avait des amis juifs. Et lui, en signe de reconnaissance, il leur faisait la cuisine pour essayer d'être reconnaissant par rapport à tout ce que ce monsieur-là lui faisait. Il lui appelait mon fils. Et puis, à un moment, il s'est dit, mais je suis en train de faire de la cuisine pour des juifs. Je suis devenu fou ou comment? Mais à un moment, il se disait, mais après tout, ces gens-là me font tant de bien. Et puis le jour de son départ, pour quitter la maison, surprise encore, on lui donne une clé, une voiture. Alors, il n'en revenait pas. Il arrive chez lui, il dit, il commence à prier son Dieu. Il dit, Allah, tu m'as enseigné à haïr les juifs, à haïr les chrétiens. Mais moi, je ne comprends pas ces gens-là, mais ils ne me veulent pas du mal. Regarde tout ce qu'ils ont fait pour moi. Pourquoi tu m'as laissé? Donc lui, il commence à s'énerver contre son Dieu. Mais pourquoi tu m'as laissé entre les mains des juifs et des chrétiens pour qu'ils me fassent tant de bien? Moi, maintenant, je suis gêné. Je suis bloqué. Réponds-moi. Pas de réponse. Alors il a pris son arme, il a voulu se suicider. Il a dit, ma vie n'a plus de sens. Le Dieu que je sers ne me répond pas. Et en plus, il m'envoie auprès des chrétiens. Je me sens sans goût. Parce que ces chrétiens-là et ces juifs, on me demande de les combattre. Alors qu'eux, ils m'ont fait tant de bien. Que faire? C'est ça, bien aimé, la lumière. Vous savez, la lumière nous donne envie parfois de nous tuer. Parce qu'on se sent tellement sale. On se sent tellement pas bien. On est en colère. Vous allez voir des gens. Ils sont en colère quand ils voient les chrétiens. Parce que, ils voient, oh, mais comment il peut être dans la joie, il n'a pas d'argent? Comment il peut être dans... Donc, tout ça, ça énerve. Moi, quand j'étais chrétien, canard boiteux au Maroc, il y a un frère qui m'énervait parce qu'il était tout le temps dans la joie. Mais nous, on était tout le temps dans les critiques à dire, ah, mais l'autre, ses lunettes sont grosses, l'autre a une grosse tête. On était des chrétiens, on observait, et parfois on était aussi en colère parce qu'on voulait être en colère, mais des chrétiens, des faux chrétiens. Mais le frère, là, lui, il était tout le temps contre moi. Je disais, mais c'est faux, il invente. Mais comment ça, il invente? Il a le Saint-Esprit, c'est tout. Il est vrai chrétien, c'est tout. Et ça énerve. Le monsieur a dit, c'est pas possible, je vais me tuer. Ma vie n'a pas de sens. Mais quand il a voulu se tuer, aïe, bien-aimé, une voix lui a dit, invoque le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le véritable Dieu, la lumière du monde. Il a dit alors, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, bien-aimé, on lui a répondu, Jésus, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il lui a montré les traces de ces clous percés là. Il a dit, c'est moi, le Fils de Dieu, le Dieu vivant. c'est moi que tu dois servir. Jésus est la lumière du monde. Cet homme a baissé les bras. Aujourd'hui, il se promène dans tous les États-Unis pour dire aux musulmans, Jésus, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui le véritable sauveur. Jésus est la lumière du monde, bien-aimé, que personne ne vous trompe. C'est le moment de lâcher prise. Laisse-toi éclairer par lui et lâche prise. Ne fouille pas. Il nous éclaire pour nous sauver. Il ne nous éclaire pas pour nous détruire. Même si tu es chrétien, ne cherche pas d'excuses à tes erreurs. Accepte que la Bible t'éclaire. Accepte que toute la parole t'éclaire. N'entre pas dans des schémas personnels. Jésus est le véritable éclairage. Si tu veux te comparer, compare-toi à Jésus. C'est pourquoi, bien-aimé, que tu sois jeune, que tu sois adulte, que tu sois vieux, aujourd'hui, je veux t'adresser un appel. Accepte l'éclairage de Jésus qui montre, maintenant qu'on parle, qui tu es vraiment. Et si tu penses que tu es perdu, tu étais dans l'erreur, je t'invite à venir confesser devant le Seigneur. Parce que c'est sa lumière qui t'a éclairé aujourd'hui. Ce n'est pas la lumière d'un homme, c'est la lumière de Dieu. Dieu te montre que tu n'es pas comme Jésus. Peut-être que tu donnes l'argent à l'église. Peut-être que tu t'occupes de ta famille financièrement parlant. Mais est-ce que tu t'occupes de ta famille spirituellement parlant? Tu sais ce que la lumière te dit. Alors, si tu veux que cette lumière-là, Jésus le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, te sauve et fasse de toi une nouvelle création, c'est le moment, pendant que nous chantons « Tel que je suis, sans rien en moi », ceux qui entendent l'appel de Dieu, comme Paul, comme la femme pécheresse, c'est le moment de passer devant. Nous allons prier pour votre transformation et votre conversion dans le nom de Jésus. Si tu as entendu l'appel du Seigneur, tu passes devant. C'est une affaire personnelle dans le nom de Jésus-Christ.